Paul Arène, le chant du fou. Demi-bourgeois et presque riche, il avait, chose invraisemblable, toujours vécu en paysan. Bien mieux, ayant perdu sa femme, il se permit l'idée bizarre de donner tout son bien à des parents éloignés pour ne garder qu'une rustique maisonnette avec 100 mètres de terrain autour, juste ce qu'il pouvait cultiver lui-même. Et depuis ce temps, il avait vécu heureux, seul, heureux, dans la familiarité de la nature. C'est pour cela que les gens du pays le croyaient fou. Rien de joli d'ailleurs, comme le petit domaine qu'il s'était arrangé au clos Saint-Lazare. Un ermite à le voir s'en serait éperdument tombé amoureux. Et ce que j'appelais tout à l'heure maisonnette, faute de trouver le terme exact, était en réalité qu'un creux de rocher que fermait un mur percé d'une fenêtre, d'une porte. Mais ce mur était si blanc et si beau le rosier qui enguirlandait la fenêtre et de si vigoureuses broussailles faisaient corniche à la place du toit que cette logette valait un château à deux pas, une source claire jaillissait du milieu d'un amas de tuffes et de mousse pour tomber à grand bruit dans un vivier au-dessous duquel descendait en pente un jardinet arrosé à la soif même au plus fort de l'été et plein d'arbres et de légumes. Quelques oliviers, un carré de blé, un cordon de vigne assuraient simplement la subsistance du propriétaire. Mais sur ce sol montueux, tout hérissé d'énormes pierres qu'il aurait fallu attaquer à la mine, bien des coins demeuraient incultes. Le bonhomme les mettait à profit pour y planter toutes sortes de fleurs curieuses et rares qu'il allait rechercher lui-même dans la montagne. Seulement, n'étant pas ingrat et voulant rendre à la montagne un peu de ce qu'il lui prenait, il y semait des fleurs de jardin aux endroits les plus solitaires, ou bien greffait sur des sauvageons les meilleures qualités de fruits, heureux d'avance de l'étonnement des botanistes et de la surprise gastronomique que sa bienfaisante supercherie préparait aux pâtres et aux coureurs de bois. On l'appelait le Père Noé, sans doute en manière de sobriquet à cause de son amour pour les bêtes. Quand je le connus, du plus loin qu'il m'en souvienne, c'était un homme très vieux, tout blanc, et si affaibli par le grand âge, qu'il était obligé, la plupart du temps, de laisser les trois quarts de son bien en friche. Il avait des idées étranges là-dessus, prétendant que tout homme ne devait demander que sa part à la terre. Et il n'eût pas souffert qu'on l'aidât. Il lui arrivait rarement de rentrer toute sa vendange, et son plaisir était de laisser les plus belles grappes sur le cep. Il faut bien, disait-il, quelques raisins mûrs pour les grives. Mais les grives n'étaient pas seules à picorer dans sa vigne, la vigne à personne, comme nous disions entre galopins, et la plus grosse part nous revenait de ces muscats amollis et cuits, si doux que leur sucre brûlait la langue. Le Père Noé aimait les petits et nous tolérait volontiers. Mais, par exemple, chez lui, défense absolue de toucher au nid et de faire du mal à quoi que ce fût. Le Père Noé se montrait sur ce point méticuleux comme un bouddhiste. Aussi, son clos faisait-il l'effet, dans nos imaginations enfantines, d'un second paradis terrestre, où vivent heureux, à peine en pleine liberté, toutes les bestioles de la création, sans compter les oiseaux bruyants et innombrables, de superbes lézards verts, le dos chatoyant et grenu comme une bourse bordée de perles, se faufilaient au soleil un peu partout, le long des muraillettes de pierre, étagées en terrasse, pour empêcher la bonne terre de glisser. Des lapins, ignorant du coup de fusil, venaient effrontément galoper et cabrioler à la barbe de leur protecteur. Et dans les crépuscules d'automne, de gros insectes à la silhouette fantastique passaient d'un vol vibrant et lourd sur des nuages pourpres du couchant. Un jour, vaguant dans le clos Saint-Lazare, avec l'autorisation du Père Noé, nous trouvâmes un lièvre au gîte, de qui les oreilles diaboliquement dressées nous effrayèrent. Car il y avait vraiment de tout dans ce bienheureux clos Saint-Lazare, de tout, même un vieux chêne crevassé où logeait un essaim d'abeilles. Le Père Noé, sans les tuer ni les mettre en fuite, ne savait-il pas parler aux bêtes, leur prenait à chaque printemps quelques rayons de miel, du miel sauvage, du miel d'ours, dont il nous faisait faire des tartines. Et nous étions fiers, pensez donc, de manger ainsi du miel d'ours. Un après-midi, comme il était en train de faire la moisson de son blé métaille, le Père Noé fut pris d'un subit malaise. Il appela un voisin pour lui demander de regagner sa maison, car ses jambes ne le portaient plus. On rentra les gerbes coupées, mais il fallut laisser sur pied ce qui restait. Oh, puisque je n'ai pas pu couper mon blé moi-même, c'est un signe que je n'aurai pas besoin longtemps de tant de pain. On lui fit remarquer qu'il y avait sacrilège à laisser périr le bon grain. Attendez l'hiver, attendez, les oiseaux me donneront raison. Et comme le Père Noé passait pour un peu sorcier, tout le monde augura qu'il sentait sa faim, qu'il mourrait bientôt et que la saison serait mauvaise. En effet, cette année-là, décembre s'annonça terrible. Les montagnes d'abord apparurent ourlées de neige à leur crête. Puis la neige gagna les plaines et le vent des Alpes soufflant, des flocons se mirent à tomber de rues élans. Et au bout de 2 jours, quand le temps s'éclaircit, toute la campagne, à perte de vue, était blanche, fossés comblés, haies recouvertes, et sur les lignes de grands noyers, on n'aurait pas pu reconnaître les routes. Un froid dur avec cela, dur, tant que les rochers mouillés se recouvraient partout d'une croûte de givre, et que tout l'effort du soleil n'arrivant qu'à fondre un peu de neige à la superficie, elle se gelait aussitôt, luisait et craquait sous le pied comme du verre. Un matin, ma grand-mère, qui était prieuse des pénitents bleus, prit sa chaufferette et sa mante. « Où allez-vous, grand-mère ? » « Eh bien, gardez jusqu'à ce soir le Père Noé. Il est au plus mal. Et lui porter une bouteille de vin cuit. » Malgré le froid, malgré la neige, comme le soleil s'annonçait beau, elle consentit à m'emmener. « Et dites-moi, grand-mère, l'hiver, comment font les oiseaux pour vivre ?»« Oh, un peu comme ils peuvent, mon mignon. Ceux qui ont de bonnes ailes s'en vont dans des pays où l'on a toujours chaud, au-delà de la mer, en Afrique. Les autres, oui, les autres, ceux qui n'ont pas de broussailles, eh bien, les autres mangent ce qu'ils trouvent. Les baies de buissons, les épis, oubliés au champ. Mais quand la neige couvre les buissons et recouvre les champs, ah, alors que veux-tu ? Ils ont faim, ils meurent. Et je me rappelais précisément avoir vu, le matin même, un oiseau mort près de la fontaine. Et comme aucun autre oiseau ne se montrait le long de la route, je fus pris d'une vague tristesse en m'imaginant qu'en effet tous étaient morts. Mais à Saint-Lazare, quelle surprise! Sitôt la barrière dépassée au-dessus du champ de Métaille, avec des cris, des froufous d'ailes, un nuage noir s'éleva. C'étaient des milliers d'oisillons qui, effrayés par notre vue, partaient en observation à la cime des arbres. Puis un se hasarda à revenir, un second l'imita, d'autres suivirent, et bientôt toute la bande s'abattit de nouveau sur les épis noircis et les tiges rouillées du morceau de moisson que le Père Noé avait voulu laisser debout. Ah! Les braves petits oiseaux, c'était affaire à eux de secouer la neige qui tenait les chaumes pour courber. Oh, il travaillait des pieds du bec. Une vraie orgie, un pillage. De tous les coins de l'horizon, Friquet, Pinson, Chardonneret étaient venus pour avoir leur part de l'aubaine. Et se chauffant un rayon de bon soleil que laissait passer la porte ouverte, le Père Noé, dans sa cabane, contemplait cela en souriant. En voici encore. Mais d'où viennent-ils de si grands nombreux, Monsieur Noé? Bien, figure-toi, mon petit, que l'autre jour, j'avais donné commission à un merle d'aller publier sur toute la contrée que la table était mise chez un vieux qui va partir et que du blé restait. Voilà, confession. La commission, paraît-il, a été bien faite. Mais s'en fourrent-ils, les brigands? Puis, montrant dans un coin un sac qui n'était qu'à moitié vide, mon bétail n'y suffira pas. Je vous charge, quand je serai mort, de leur distribuer encore tout cela. 8 jours après, le Père Noé s'étant éteint paisiblement, je m'en allais au Clos Saint-Lazare avec quelques malpeignés de mon âge pour assister à la cérémonie. La neige avait un peu fondu. Maintenant, sur le chemin, tout le long des haies, des kyrielles d'oisillons ragaillardis claquaient du bec en gazouillant les perles noires des viornes et les grains de corail des aubépines. Regarde les voler, écoute comme ils chantent, le curé ne leur fait pas peur. Et nous restâmes persuadés, avec raison peut-être, que c'étaient les oiseaux du Clos Saint-Lazare, les oiseaux mangeurs de métaille, qui suivaient ainsi le convoi, accompagnant pieusement leur ami jusqu'au cimetière.